Puis vous savez, je suis un enfant encore, moi. C'est ça. Hélas.
Pourquoi,
et heureusement. Hélas, parce que ça me fait déjà d'histoire. Et puis, dans la vie, dans ma vie sociale, dans les rapports que j'ai avec les autres. Et puis, heureusement, parce que ça me laisse une naïveté qui me rend fort, définitive. C'est terrible de ne plus être naïf, je pense.
Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Ferré Club, votre tranche hebdomadaire de Léo le mercredi entre 16h et 17h et parfois en mode hors-série sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste que vous écoutez sur le 89.4 FM et www.radio-libertaire.org. Bonsoir à toutes et à tous. Ferré Club hors-série ce soir autour de Benoît Misère en compagnie de Luc Baba et Hélène Weissenbacher. Benoît Misère, c'est un roman, le seul roman signé Léo Ferré, paru en 1970 aux éditions Robert Laffont. Un roman poétique, drôle, poignant aussi, profondément libertaire, et qui a inspiré à Luc Baba et Hélène Weissenbacher une adaptation au cours de laquelle Luc récite le texte et Hélène mêle son piano pour apporter la musique. En marge de ce travail destiné à la scène, Luc et Hélène sont allés en studio pour enregistrer leur travail d'adaptation sous la forme la plus aboutie possible, enregistrement qu'ils ont eu la gentillesse de me confier et que j'ai le plaisir de vous diffuser depuis 3 semaines dans le cadre du Ferré Club et que je vous propose ce soir d'écouter en intégralité dans le cadre de ce numéro hors série. Avant cela, je vous propose la rediffusion de l'entretien avec Hélène et Luc diffusé en octobre dernier dans lequel ils nous parlent longuement de ce travail. Et à l'issue de la diffusion de l'enregistrement, nous retrouverons Luc et Hélène à Strasbourg quelques heures après la représentation donnée à la Bibliothèque Nationale Universitaire le 27 février dernier. Ils nous diront quelques impressions en sortie de scène et ils nous donneront quelques nouvelles de leurs activités. À la toute fin, une petite surprise en plus. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste sur 89.4 FM. Le Ferré Club est ce soir en mode hors-série pour Benoît Misère avec Hélène Weissenbacher et Luc Baba. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Hélène Weissenbacher. Alors, la première question que je te pose, Hélène, est-ce que je prononce bien ton nom? Je la fais très allemand, disons.
Alors, j'ai un compromis, je te propose. Je suis alsacienne, tu vois, donc on fait les diphtons, on peut dire donc Weissen, pas Weissen, hein, parce qu'on des fois... Et, mais par contre, on va pas faire le re, on va dire Bacher, tu vois, donc Weissenbacher. Donc tu étais presque.
D'accord, bon ben voilà, on fait un 50-50,
moitié-moitié. Voilà,
moitié.
C'est ça.
Hélène Weissenbacher, ouais, je vais tâcher de pas de faire des bêtises, hein. Je ne m'en veux pas parce que je suis germano-praticien. Non, ça se dit pas ça, enfin bon, c'est pas grave.
Pratin.
Pratin. Ouais, un petit peu aussi. Et tu n'es pas seule, Hélène, puisque tu es accompagnée de Luc Baba. Bonsoir Luc.
Oui. Bonsoir tout le monde.
Ravi de te retrouver, ravi de te rencontrer. Hélène, c'est la première fois que nous te rencontrons dans le studio, mais en revanche, Luc, nous sommes déjà croisés à ce micro, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais justement, puisque c'est la première fois que nous nous rencontrons, Hélène, je voudrais, si tu le permets, que tu te présentes en tant que musicienne à nos auditeurs et auditrices.
Alors moi, je suis née à Strasbourg, où j'ai commencé la musique de bonne heure. J'avais une mère musicienne, donc j'étais des études classico-classiques.
De piano,
voilà. Moi, très vite, j'ai adoré jouer avec d'autres. Tu vois, donc j'ai fait ce qu'on appelle la musique de chambre. Alors, quand on ne connaît pas, c'est un peu mystérieux, mais la musique de chambre, c'est quand tu joues avec plus que un. Quand t'es, voilà.
Mais pas trop non plus.
Mais pas trop. Voilà, sinon ça devient l'orchestre. Et puis, je suis allée à Genève pour un petit peu voir ça de plus près. Et là, j'ai eu un poste au conservatoire d'Annecy. À 25 ans. Et là, en fait, on m'a confié un poste de... Ouais, non, c'était... J'avais beaucoup d'accompagnement. Moi, j'étais plutôt dans la sphère de l'accompagnement, tu vois, classique. Je jouais avec des instruments, avec des danseurs aussi. Et dans ce conservatoire, il y avait un pôle chanson. Et avec des élèves adultes, il y avait un noyau d'élèves adultes absolument passionnés. Et on a commencé, du coup, à travailler ensemble, on organisait des soirées à thème autour du chat noir, des choses comme ça. Le lapin agile, j'ai fait toutes les bestioles de Paris, là, qui connaissent bien. Et puis surtout, il y avait des artistes invités qui passaient. On a eu Romain Didier, Enzo, je me rappelle Henri Tachant aussi, avec Ken. Enfin bref, il y avait des. On faisait leur première partie, donc tous ces gens-là, je les ai côtoyés. Je me suis dit, mais oh, la chanson, c'est vachement bien. Ouais. C'est vachement bien. Et du coup, ben, c'était pas du tout ma culture. J'écoutais Brel. Barbara, Brassens, j'avais des 33 tours de mes parents quand j'étais gamine, mais là, pour le coup, en tant que musicienne, c'est la première fois que j'ai approché ce répertoire avec mes doigts, quoi. Et voilà, je suis tombée là-dedans. Ça, y a eu une forme de déclic et j'ai commencé à accompagner la chanson beaucoup et aussi à composer. C'est notamment en voyant Romain Didier au travail, on a fait des ateliers avec lui, j'ai vu comment il fonctionnait et ça a été un déclic pour moi, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, ça, c'est pour moi aussi, j'avais envie de. Et du coup, j'ai commencé à monter, à me lancer dans l'autoproduction avec des copains, copines localement. On a monté des petits collectifs de chanteurs, on a commencé à tourner. Et Enzo, qui, avec qui j'avais noué un lien au conservatoire, est venu s'installer à Annecy. On a loué une belle amitié aussi, on a commencé à tourner ensemble. On a fait justement des spectacles littéraires. On avait bossé autour de Marie Nimier, une auteure romancière française. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré un poète, Yvon Le Maine. Voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à la poésie. Et ben là, on va en venir à la rencontre avec Luc, parce que c'est grâce à Yvon que j'ai été amenée à croiser Luc et que je suis ici aujourd'hui, voilà.
On en parlera.
Mais tu vois, j'ai fait, voilà, la boucle a été retracée.
D'accord. Donc tu es pianiste, pour synthétiser un petit peu, avec une fibre chanson française.
Voilà, c'est ça.
Et donc je vous reçois aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais pour parler d'un projet qui est plus qu'un projet maintenant, qui s'est même concrétisé, qui s'appelle Benoît Misère. On va en parler longuement, alors Benoît Misère, on le présentera dans quelques instants. Et donc, tu n'es pas seul, Hélène, puisque tu es avec Luc. Et Luc, les auditeurs et auditrices de l'émission te connaissent, puisque ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Nous nous étions croisés une première fois. Nous t'avions rencontré, les auditeurs et moi, en tant qu'écrivain. C'était en 2017 pour un livre qui s'appelait Léo Ferré de Tendresse et de Révolte, qui était paru aux éditions Adodan.
Oui, les éditions Adodan qui ont malheureusement fermé leurs portes. Donc...
C'est ce que tu m'apprenais là, il y a quelques instants.
Voilà, oui.
Rattrapé par plus gros, mangé par un plus gros, en fait, en quelque sorte.
Exactement. Voilà, avec quelques ouvrages qui ont été réédités, notamment la biographie. Donc c'était la spécialité d'Adodan, c'était de publier des biographies pour enfants. Et j'avais travaillé sur Chaplin, Brel et puis Ferré. En effet, oui, 2017.
2017, et c'est à cette occasion que nous avions fait connaissance.
Oui.
Et lors de cette émission, alors ça c'est une petite anecdote, mais comme il va être question de lecture de livres dans l'entretien que nous allons mener, lors de cette première édition, il y avait eu une lecture, Lila, ma nièce,
en effet,
Lila avait lu l'intégralité de ton petit livre. On t'avait retrouvé ensuite une deuxième fois, cette fois-ci non plus en tant qu'écrivain, mais en tant que chanteur, en tant qu'interprète même, devrais-je dire. C'était en 2020, c'était à l'occasion d'un voyage à Liège, d'ailleurs l'émission avait voyagé jusqu'à Liège, et on avait parlé à cette occasion de ton disque « Comme à Ostende ». Luc Baba chante Léo Ferré « Comme à Ostende ». Beau souvenir aussi, hein ?
Très beau souvenir, une belle histoire, une belle aventure, en effet, ce CD qui est venu... je pourrais peut-être en redire quelques mots, mais c'est vrai que c'est un concours de circonstances qui a fait que j'en suis venu à chanter Ferré, à reprendre Léo Ferré, ce que je n'aurais jamais osé faire si ça ne m'avait pas été proposé.
Oui, bien sûr. On en avait déjà parlé, je renvoie à l'écoute des émissions précédentes. Et une troisième fois, il y a quelques temps de cela, tu étais passé par téléphone pour nous annoncer un concert qui allait avoir lieu concernant Léo Ferré comme en Bretagne, avec justement Hélène. Mais je voudrais rester quelques instants sur ces émissions de 2020 à Liège, puisque non seulement au cours de cette émission que nous avons partagée ensemble, il y avait un entretien pour présenter ton disque, mais également des extraits d'un concert qui avait eu lieu au château de Peralta à Liège. Tu étais très bien entouré ce soir-là, puisqu'il y avait Guy Lukowski, Jean-Marie Dzouba, il y avait Loïc Duchesne et Francis Danlois. C'était une belle soirée, moi j'avais passé un très beau séjour. Je le dis en passant, je te l'ai déjà dit, mais je le redis, tu m'avais complètement bluffé sur le « et pressentant violemment la voile » des poètes de 7 ans. Et au cours de ce concert, tu chantais donc des chansons de Léo Ferré, essentiellement les chansons qui étaient parues sur ton disque, mais bien d'autres, hein, puisque les poètes de 7 ans notamment avaient été rajoutés. Et entre les chansons, il y avait des petites insertions de quelques extraits d'un livre de Léo qui s'appelle Benoît Misère. C'est ta première rencontre artistique avec le livre de Léo à ce moment-là?
Oui, c'est une rencontre qui m'a été offerte par Manu Lanuel, hein, qui est, je pense que les auditeurs doivent connaître aussi, qui a repris Léo Ferré dans les années 80. Et j'ai rendu hommage à Léo Ferré à Bruxelles en compagnie de Manu Lanuel. Je suis allé travailler avec lui, travailler entre guillemets, parce que c'était c'est un verbe qu'il ne connaît pas bien, mais on avait passé du temps autour de ce projet à Brest. Et à cette occasion, Manu m'avait offert un exemplaire de Benoît Misère, que je ne connaissais pas. Et c'était une révélation, c'est un très grand roman, donc j'ai eu un bonheur fou à le lire. Et j'ai eu envie, en effet, quand l'album est sorti et qu'on a eu quelques dates pour interpréter les chansons et de l'album et d'autres, de glisser ces petits extraits choisis de Benoît Misère.
Tu te rappelles de quelle manière tu avais sélectionné les passages que tu avais dit ou pas?
Il fallait que ce soit des petits passages qui pouvaient exister indépendamment du reste de l'ouvrage, c'était un critère, et puis des petits passages coup de cœur qui trouvaient une résonance dans les chansons.
Et lors de la lecture de ce livre, j'imagine que tu avais été touché par la patte. Est-ce que la patte d'écrivain de Léo t'avait touché?
Oui, pour moi c'est un très grand roman, méconnu, je pense, parce que les gens aiment pas trop que les étiquettes se multiplient. Donc un chanteur qui écrit un roman, on peut pas trop prêter attention. Or c'était avant-gardiste. On n'est pas loin dans certains extraits, surtout à la fin du roman où il est dans une écriture automatique. On est assez proche du nouveau roman, mais il y a aussi un trésor lié à son enfance qu'on trouve peu, on en parlait aussi, et où il se révèle, où il révèle les racines de sa vie d'artiste dans l'enfance et dans ce qu'il a pu vivre de pire au pensionnat de Bordighera. Donc j'ai été touché par ça, mais notamment parce que ça faisait écho aussi à mon histoire et à ce que j'ai pu vivre moi comme enfermement quand j'étais enfant. Donc je sentais des liens dans ce livre avec ma propre enfance. Et puis c'est sans doute très anecdotique, mais il a terminé l'écriture de Benoît Misère en juin 1970, je ne me trahis pas, je traduis directement, en juin 1970, et au moment où moi je venais au monde. Et quand il a signé le roman, il avait l'âge précisément que j'ai, moi, que j'avais en commençant le projet. Donc voilà, c'est des petites coïncidences de date qui me semblaient sympathiques.
Oui, absolument. Ça crée un petit lien.
Oui, voilà.
Oui, tout à fait.
Madame la misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue au pas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent plus, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des suppliciés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois. Régler son compte à Monseigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et la mise en sérite. Quand il ne leur restait que ça. Madame et la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi, traînant des mots d'amour, avalant des insultes et prenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres, parfois. Comme si l'on devait toucher du doigt pour croire un peuple heureux rôtant tout seul dans sa mangeoire. Vaut bien une tête de roi. Madame la misère, écoutez le silence qui entoure le lit des faits des magistrats. Le code de la peur se rime avec potence. Il suffit de trouver quelques pendus d'avance. Ça ne manque pas.
Alors, ce Benoît Misère, effectivement, c'est un roman que vous avez adapté, Hélène et Luc. Hein, et on va effectivement parler de cette adaptation durant cette émission. Mais je voudrais, parce qu'on ne s'adresse pas uniquement à des gens et à des amateurs et à l'amatrice de l'œuvre de Léo, je voudrais peut-être qu'on présente le livre Benoît Misère, qui n'est pas une œuvre anodine dans la carrière de Léo, puisque lorsqu'on parle d'une œuvre, d'une manière générale, dans la carrière de Léo, en général, on parle d'une chanson, ou de quelque chose de musical. Or, comme tu dis, Léo n'est pas uniquement un compositeur, n'est pas uniquement qu'un chanteur, il est aussi un écrivain. Est-ce qu'on peut présenter, est-ce que tu pourrais nous présenter ce livre, Benoît Misère, en quelques mots?
Oui, il a écrit un roman, je pense, parce que la chanson, pour ce qu'il avait à dire, ne suffisait plus. La chanson est un petit format, c'est 3-4 minutes, même s'il se plaisait quelquefois à prendre plus de temps. Le roman lui offrait le temps et l'espace pour écrire les douleurs d'enfance qui l'ont amené vers son métier de chanteur. Et ça commence, voilà, ça commence très tôt. Il part de la naissance. Il explique déjà dans les premières pages le contexte dans lequel il est né, entre une sage-femme et le châle que recousait sa mère, les odeurs, la proximité de la mère. Tout ça est présent dès sa naissance et tout ça donne déjà la matière de ce qu'il va devenir. Ça, c'est très habile. Avec un humour aussi qui est assez particulier, mais bon, il a un humour très pointu. Et dans ses premières pages, il y a un second degré et une dose d'ironie qui est très, très agréable, très plaisante et qui nous met un peu sur une fausse piste. Et ça, je trouve que c'est aussi une qualité de romancier de pouvoir inviter le lecteur sur un chemin et de le surprendre. Donc, en cela, j'estime que c'est un grand romancier. Il a réussi son coup. C'est-à-dire qu'il nous amène avec un peu d'humour sur les chemins de l'enfance, les premiers chemins de l'enfance, et on ne se rend pas compte que petit à petit, on va toucher à ce qui fut pour lui le tragique de l'enfance. L'enfermement, les abus subis par les pères du pensionnat de Bordighera. Et tout ça nous vient en pleine figure après ces petites touches de couleur, son attention aux odeurs, au nez qu'il avait, à sa perception, à son attention au monde qui l'entourait, à sa façon de le vivre à l'intérieur. Et puis, après la tragédie, après ces tragédies de l'enfance, la façon dont il se libère et dont il part en écriture automatique, comme si tout ce qu'il venait de lire était indigeste, insupportable, et il ne peut plus faire autrement que de quitter toute règle et d'écrire sans se soucier que chaque phrase ait un sens, mais en libérant son cœur, son esprit et sa main pour aboutir à une fin qui est une fin d'opéra, pour moi, qui est grandiose et qui ouvre toutes les portes et qui permet de jouer son rôle de roman en offrant aussi un jardin miroir au lecteur. Un jardin où le lecteur peut être jardinier de son propre vécu en lisant ce qu'il lit de Léo et un miroir de ce que chacun peut ressentir.
Il y a toute une galerie de portraits.
Oui.
En fait,
est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro, Hélène ?
Oui, moi qui l'ai découvert, j'étais émerveillée. Il y avait une galerie de portraits absolument truculents. En fait, donc oui, il nous dit clairement, il y a un préambule, enfin sur la quatrième de couve. Voilà, on lui dit que ouais, c'est pas vraiment toute ressemblance avec la réalité. Serait, je ne sais plus quels sont ces mots, enfin, il évoque ça, la distanciation quand même,
fortuite, nécessaire, fortuite, ou quelque chose comme ça.
Et n'empêche qu'on sent qu'il est quand même, il y a des inspirations. Enfin, il est, on sent qu'il est très très connecté aux personnes qu'il évoque. Moi, j'étais très 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 marquée par le chapitre sur son oncle, avec et tout le chapitre est consacré à la recette de la sauce tomate. Mais tu en baves, tu salives. c'est absolument magnifique. Il parle de la vie à Monaco, des gens de sa famille qui travaillaient dans les jeux, qui étaient un peu addicts. Enfin, c'est vraiment savoureux, quoi. Et toute cette vie, son microcosme qui était le sien, méditerranéen, là. C'est voilà. Et donc c'est une forme très très libre. Les chapitres sont consacrés. Il n'y a pas vraiment de voilà. C'est des puzzles en fait. Il dispose des puzzles. C'est vrai que le travail de Luc met vraiment en évidence une ligne de force. Voilà, ça va quelque part. Alors que chez Fauré, il nous perd un petit peu. Il dispose plein de choses. Et puis, l'air de rien, il nous amène après dans le dur, dans des choses qui sont. Mais voilà, il nous promène. Voilà, il nous fait.
Et tu trouves que l'approche de Luc détermine une forme d'unité, une forme de trame dans
oui,
tout ça ?
Oui, c'était nécessaire parce qu'il y a une réduction de près de. Je dirais, t'as gardé un sixième peut-être de la matière d'origine. Le texte d'origine est extrêmement long.
Oui.
Ça, si on devait l'enregistrer en entier, ce texte, on aurait
quelques heures de travail.
Oui. Ouais, on aurait 6 heures de bande, je pense. Oh, tu vois, alors que on a 1h15, donc il y a eu beaucoup de réductions. Mais oui, c'est vraiment un livre savoureux, quoi. Savoureux. Quand il parle de ça, il y a un oncle, on sent qu'il a vraiment un problème avec le jeu, mais en fait, il le dévoile à toute fin du chapitre, après être passé par moult digressions. C'est un peu sa technique. Habile. C'est un peu sa technique, et c'est la technique que lui emploie à l'échelle du roman, en fait, par rapport à lui-même, quoi.
Oui, l'oncle Percani.
L'oncle Percani, avec les horloges. Mange, mon petit. Ouais, Remonte le ressort. T'as la quatrième, du coup, derrière.
Au début, ouais. Il dit, bien qu'il y paraisse, ce livre n'est pas autobiographique. L'auteur a essayé de raconter l'histoire d'une certaine enfance. Des personnages ont sans doute vécu réellement, bien que défigurés par le mouvement narratif. D'autres relèvent purement de la fiction et qu'on peut rencontrer dans la rue, au café ou ailleurs. Au vrai, qu'est-ce qu'un roman sinon un amoncellement d'autrui ? Ça, c'est joli, ça aussi.
Très bien dit, hein.
Un peu comme la culture. Rien ne se fait en art en dehors du fait observable. Certains faits contrevenant aux morales courantes ont été jugés par l'auteur assez courants pour être rapportés. Les rencontres, s'il en est, ne peuvent, d'évidence, être que fortuites.
Mmh. Voilà, ça c'est bien à lire, peut-être.
Oui.
C'est vrai qu'un accumoncellement.
Un amoncellement, ouais.
Un amoncellement d'autrui, ça résume bien, hein, le...
Oui.
Tu veux dire, ça résume bien Benoît Misère ? Ou même le roman, d'une manière générale ?
Bah, son roman à lui, il y a vraiment un amoncellement. Il y a vraiment... vraiment ça, hein.
Oui, d'autrui, et puis de sensations, et d'émotions. Mais il y a en effet cette ligne de force... Et cette, comme tu disais, et puis ce chemin de l'enfance où se révèle à la fois l'idée de la blessure et l'idée du beau. Moi, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant, mais ça demandait en effet de renoncer à certains chapitres magnifiques.
Par la force des choses.
On est obligé en scène aussi de faire en sorte que le public sente qu'on va quelque part, qu'ils sont sur un chemin, de pas les égarer. Maintenant, moi, je pense, ma conception du roman, comment j'écris un roman, c'est qu'est-ce qui va servir le récit, et de jamais m'éloigner de ce qui sert le récit et le propos. C'est quoi le propos ? C'est quoi le récit ? Et tout ce que j'écris doit servir le récit et le propos. Mais Léo, il joue avec ça. C'est-à-dire qu'il nous emmène sur des chemins, on se dit, mais ça ne sert pas le propos, le récit. Mais si, en fait. Mais il joue à nous en éloigner le plus possible pour y revenir d'une façon tranchée. Abrupte, donc c'est très habile.
Tu aimes cette façon de faire chez Léo, ouais.
Oui, j'ai beaucoup aimé ça.
Est-ce que tu la retrouves dans ses chansons ?
Dans certaines, sans doute, mais c'est moins facile en chanson.
Forcément.
Oui. Oui. On a peut-être ça un peu plus chez Brel, alors, cette idée de nous emmener sur une piste, et puis Il y en a une autre cachée.
Mais ça, en tant qu'écrivain, tu as un recul que nous n'avons pas, enfin que je n'ai pas, moi qui ne suis pas écrivain. Donc justement, c'est intéressant de voir ces méthodes, ces façons de faire que tu as pu...
Oui, mais là, il a cet art de... Et cette liberté qu'il a voulu prendre aussi, de ne pas se cantonner à une façon d'écrire. Et c'est un tour de force, parce que c'est un premier roman, c'est un roman unique, c'est un premier roman. Et quand on écrit un premier roman, peu importe l'âge qu'on a et l'expérience qu'on a, on peut tomber dans le piège de vouloir écrire un roman. Comment est-ce que ça s'écrit un roman? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les codes pour que ce soit un roman? Et lui est allé au-delà de ça. Il a suivi son intuition, sa volonté, avec des parties très, très écrites, narratives, des petits bouts d'histoire, et une fin complètement débridée en écriture automatique. Donc il s'est permis des libertés que peu de romanciers se permettent. Ça, c'est un vrai tour de force.
Oui, un anarchiste s'embarrasser des codes manquerait plus.
Exactement.
Mais ce qui est très étonnant, on se disait avec Luc, dans ce roman-là, c'est que par rapport à, donc, aux abus qu'il a subis, il en vient à pardonner.
Oui,
et ça, c'est très important, et il a une parole très très apaisée, et c'est pas un ton qu'on lui connaît en fait dans les chansons, où il est très vindicatif et très souvent offensif. Et là, c'est vraiment inféré, c'est une autre dimension en fait de cet homme là qu'on...
Oui, c'est peut-être le seul moment littéraire de Léo Ferré où c'est peut-être le passage qui m'a le plus surpris. C'était important qu'il soit dans le spectacle. C'est qu'il dénonce et il pardonne. Là, j'avoue que là, il m'a eu. Je m'y attendais pas trop. Et on sent à la façon dont il amène ce pardon à quel point c'est sincère, c'est vrai.
Et c'était nécessaire. C'est ce qui lui permet de survivre, en fait.
Oui. D'avancer.
Ouais.
Salutaire pour lui. Oui.
Le pardon, hein.
Le pardon, oui, tout à fait. Ça se...
Oui. Vieillard, suintant de désir, je vous pardonne. Bam. Puissant.
C'est un livre que Léo a commencé à la fin des années 50, hein, pour essayer d'être le plus précis possible, hein, c'est ça.
Oui, il a mis beaucoup de temps à l'écrire, voilà. Aussi, par touche, et puis...
Et puis qu'il a fait paraître en 1970, aux éditions Robert Laffont, incité par un monsieur qui s'appelle Jean-François Revel, à achever ce travail et à faire en sorte que paraisse ce livre, et qui est donc paru en 1970, qui a ensuite été réédité un peu plus longtemps, parce qu'il faut dire que lorsqu'il est paru, il y a eu très peu de promotion, très peu vendu du coup, hein, faut bien le dire, et puis une forme de dédain, hein, comme dont tu parlais, de la part des gens qui, pour qui Léo ne peut être qu'un chanteur.
Oui, de la part du public, et puis de la part des lettrés aussi, parce que c'est assez dérangeant de voir un chanteur se mettre au roman, voilà.
Ouais, bien sûr. Oui. Et donc voilà, c'est un livre alors qui n'est pas directement autobiographique, hein, puisque dans les premières lignes, Léo met tout de suite une petite note à notre attention, hein, ce n'est pas autobiographique, néanmoins, très largement inspiré de son enfance.
Oui, c'est un néanmoins en lettres grasses quand même, hein, oui.
Ouais, quand même,
bon gros clairement. Néanmoins.
Oui, voilà. Donc on retrouvera dans ce livre, Benoît Misère, quand même des grands traits de l'enfance de Léo, même s'il insiste sur le fait que ce n'est pas autobiographique.
Voilà, c'est un jeu très habile aussi, c'est-à-dire d'amener la petite part de fiction permet aussi de garantir une distance émotionnelle quand on est dans la lecture et de, pour lui, de se préserver un peu, de dire ce n'est pas tout à fait moi, voyez-vous ce que vous lisez.
Voilà.
C'est une pudeur aussi.
Amis devenus que j'avais de si près tenus, étant aimés, ils ont été trop clairsemés. Je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que
vent t'emporte. Et il ventait devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille qui n'aille à terre, avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Amis devenus, que j'avais de si près tenu et tant aimé, ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir. Tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire et pauvre rente et droit au cul qu'en bise vente. Le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et il ventait devant ma porte, les emporta. Des lendemains, ce sont mes fêtes.
En compagnie de Luc Baba et Hélène Weissenbacher pour leur travail sur le roman de Léo Ferré, Benoît Misère, sur Radio Libertaire 89.4 FM. C'est Manuel Annuel qui t'amène à ce livre et puis cette rencontre artistique qui se fait à Peralta. Et aujourd'hui, on va donc un petit peu tracer le chemin qui s'est fait entre Peralta et aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on va non seulement parler des concerts que vous avez pu faire concernant Benoît Misère, mais aussi d'un enregistrement qui vient d'aboutir et dans lequel donc tu lis quelques extraits de Benoît Misère, durant lesquels, Hélène, tu viens accompagner Luc avec ton piano. Et très rapidement, en fait, tu t'es rendu compte que ce livre, il était nécessaire de le mettre un peu en avant.
Oui, c'était mon sentiment. Et ce qui m'a vraiment convaincu, c'est le coup de fil de Marie-Christine, qui a appris par Marianne Grosdeclasse, qui est une amie commune, que je disais en effet des extraits de Benoît Misère pendant le concert. Et elle m'a appelé un soir pour m'en remercier. Donc elle était très émue, très touchée, parce que c'était pour elle aussi un grand roman, une grande œuvre, qu'on n'y avait pas prêté l'attention qu'il méritait. Et voilà, qu'elle était très touchée de savoir ça, de savoir que je donnais des petits extraits. Et donc, sachant cela, j'ai souhaité aller plus loin et en faire un spectacle à part entière, de sortir des petits extraits entre les chansons, mais d'en faire quelque chose d'autre. Bon, au début, ce n'était pas l'idée d'un spectacle, c'est plutôt d'une lecture enregistrée. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer, grâce à Marianne encore, Mathieu Ferré à Liège. Et nous avons discuté une petite demi-heure, au terme de laquelle il m'a dit « Mais fais un spectacle, piano, piano-voix ».
C'est lui qui t'a suggéré cette idée.
Voilà, c'est lui qui a proposé cela, alors que moi je parlais plutôt d'une lecture intégrale, enregistrée. Donc, il avait ajouté, mais je te le dis déjà, tu n'auras personne, ça n'intéresse, parce que plus personne ne s'intéresse à mon père, et personne ne s'intéresse à ce roman, mais fais-le quand même. Voilà, c'était un peu les mots de...
D'accord. C'est encourageant.
Bon, très bien.
Voilà. Très encourageant, quoi.
Ouais, oui, ouais. Mais peu importe, on ne pas... Ici, on n'est pas... C'était pas l'idée de faire un succès de foule. Donc ça devait exister. Et puis donc je fais un raccourci, je me retrouve à Lannion à chanter Ferré en compagnie d'Hélène, qui me demande au détour d'un chemin si je vais... Tu veux raconter un peu?
Oui, bah, je demandais justement à l'occasion de cette rencontre que nous avons eue avec Luc, où nous avons fait... On a été réunis donc, à l'occasion d'un festival de poésie à Lannion par ce poète Yvon Lemaine, dont je parlais tout à l'heure, qui a été très importante pour moi dans mon parcours. Donc Yvon qui tenait beaucoup à inviter Luc à chanter Ferré dans son festival, parce qu'il aimait beaucoup la manière dont Luc chantait Ferré, justement pas du tout comme Ferré, avec un autre corps, une autre énergie, mais avec une grande intériorité, une grande douceur. Et donc Luc ne pouvant pas venir avec son pianiste à cette occasion-là, et que moi j'étais là aussi parce que j'avais d'autres choses à faire lors de ce festival, donc Yvon a eu l'idée de nous rassembler. Et donc on s'est retrouvé là à monter très très vite un répertoire en très peu de temps.
Alors qu'est-ce que tu connaissais de Léo à ce moment-là quand
moi je m'étais pas mal déjà penchée sur Ferré. J'avais monté un spectacle avec une amie Bella Onis qui était plutôt une chanteuse de jazz il y a une dizaine d'années et qui s'appelait Il se bat encore.
C'était consacré à Léo.
Et avec un ami à nous qui faisait de la musique électroacoustique. On avait imaginé revisiter un ensemble de chansons de Léo Ferré avec son travail à lui, le travail de Jean, qui avait créé des paysages sonores. Donc dans l'idée, en fait, c'était déjà un petit peu présent dans ma tête, cette idée de faire un spectacle avec pas de décor, mais juste une musique et des sons qui assurent quelque chose de continu, une espèce de voyage comme ça, sans qu'on ait besoin de faire des commentaires entre les chansons, enfin bref. Et c'était intéressant de travailler aussi avec une femme. Voilà.
Et alors à quoi consistait ce spectacle alors à cette époque? Tu peux nous en dire, au-delà de ce que de la présentation que tu viens de nous en faire, tu te rappelles de certaines chansons, de certaines...
Oui, on avait... Il se bat encore chez Bella, ce qui l'anime beaucoup chez elle, c'est y a l'idée de la lutte. Voilà, de quelque chose de vivant, une énergie quelque chose à affirmer, quelque chose de... Et qu'elle, en tant que femme, elle avait très, très envie de... qu'elle avait envie de porter, quoi. Et on avait fait, par exemple, on avait fait Les Anarchistes, je me rappelle, avec un montage, avec des bruits de foule, tout ça, il était très puissant. On était allé chercher à chaque fois des habillages dans les archives, on avait trouvé des images d'archives, des souvenirs sonores, tu vois, de manifs, des trucs comme ça. Je me rappelle, il y avait des coups de fusil. Et puis l'idée, c'était que moi, j'amène un piano là-dedans, mais qui soit plutôt ravelien. Le piano que Ferré aimait bien, qui était un piano du coup assez doux, et assez, avec une facture assez classique, mais avec du coup quelque chose de très concret dans les sons, voilà, qui puisse donner quand même une épaisseur et une densité, une force aussi au propos. Donc on avait travaillé dans ce sens-là. On avait fait aussi Est-ce ainsi que les hommes vivent? Il y avait 20 ans, il y avait Pépé, je me rappelle. D'accord. Ils ont voté. On avait une douzaine de titres. On avait fait La Lune aussi.
Oui, donc tu
voilà, as... donc j'avais passé beaucoup de temps déjà dans cet univers-là. D'accord. Et puis aussi en travaillant du coup avec les élèves. J'avais beaucoup travaillé aussi des jeunes interprètes, sur des chansons de Ferré, donc d'accord. Voilà, j'avais passé. Et puis j'en avais beaucoup écouté, donc c'est vrai que Ferré, c'était...
Tu connaissais quand même déjà pas mal.
Je connaissais déjà pas mal.
Tu étais familière avec son coup de piano, avec son répertoire.
C'est ça. Donc moi, j'avais déjà accompagné du Ferré, travaillé dessus. Et là, la perspective d'avoir un roman à mettre en musique, pour moi, c'était vraiment très intéressant. Parce que pour le coup, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Mmh. J'avais déjà accompagné des gens qui dansent, mis des mots en musique, et tout ça, mais mettre un roman en musique, c'était quelque chose de nouveau et c'était vraiment un défi intéressant. Quoi.
Tu savais que Léo avait écrit un roman ?
Eh ben non, je ne savais pas. Je l'ai appris à cette occasion.
Comme quoi, hein, c'est bien caché. Hein.
Voilà.
C'est vraiment des secrets qu'il faut laisser de côté. Hein. Voilà. Surtout ne pas expliquer aux gens que Léo est capable de diriger des orchestres, d'écrire des livres. Non, surtout pas. Surtout pas.
Ah, ça, j'avais. Mes parents, ils avaient une anthologie de ça, ces enregistrements-là. Il y avait un coffret avec Léo qui dirige Ravel. Mm-hmm. Donc je savais aussi qu'il y avait cet amour immense de la musique classique chez Ferré. Qu'il a ce côté très opératique aussi dans sa manière de chanter. Voilà, pour moi qui viens aussi de ce monde-là, c'est quelqu'un qui m'est très accessible, Ferré, musicalement. J'avais toujours des affinités avec lui. Sa manière de porter la voix, la manière de tourner ses mélodies aussi, d'accompagner, d'harmoniser aussi. C'est vraiment des univers qui me sont très familiers.
Et donc, vous vous rencontrez donc à l'occasion de ce festival en Bretagne, à Lannion, chez Yvan Lemay.
C'est ça.
Non, je prononce bien son nom ?
Yvan Lemay, oui.
Yvan Lemay.
Voilà. Prix Goncourt de poésie en 2019.
En 2019, ouais.
D'accord. Et donc, vous ne vous connaissez pas encore, et à ce moment-là, vous vous rencontrez, hein, bien sûr, et vous allez travailler un certain répertoire. Alors, comment est-ce que va se dessiner ce répertoire sur lequel vous allez travailler ? C'est des chansons sur lesquelles tu avais déjà travaillé, Luc, de son côté ?
Pas nécessairement. En fait, on a choisi de proposer, comme c'était à Lannion, que c'était au bord de la mer, d'aller un petit peu pêché dans le répertoire des chansons évoquant la mer. Il y en a quelques-unes chez Léo, et on a ajouté aussi deux, trois chansons d'Yvan Lemay au répertoire. Mais c'était le thème de la mer qui prédominait.
D'accord.
Et bien entendu, Come Off Stand.
Bien sûr,
la mer, et puis les étrangers. Donc, c'était un peu le lien, d'évoquer le lien qui était très fort entre Ferré et la Bretagne, à travers des chansons choisies.
Et d'ailleurs, en travaillant sur ce répertoire-là, on s'est dit, tiens, mais il y a des chansons, des textes qui sont vachement beaux, mais peut-être on va les faire autrement, tu pourrais les dire, et puis moi je pourrais jouer des musiques, justement. Et c'est là qu'on a commencé à combiner, je me rappelle de Christy, par exemple.
Oui.
Et je me suis dit, oh, mais tiens, on pourrait jouer, par exemple, le mouvement lent du concerto de Ravel, le début, qui est tellement planant, pour voir. Donc on a fait des expériences déjà d'association entre textes. Prose de Ferré et musique du répertoire, musique classique.
Autre.
Quoi.
Autre, ça doit être très savoureux, ce moment d'expérimentation.
Et c'était c'était extrêmement fort. Enfin, c'était...
Oui, donc on l'a tenté à Liège. Jacques Bovy, qui est un célèbre marchand de piano à Liège, accordeur, qui a un petit auditorium, a accepté qu'on vienne répéter chez lui, dans son petit auditorium, et... En contrepartie, on a donné un petit concert, on a essayé un peu nos chansons le soir avec un public, voilà, pour pouvoir un peu défrayer aussi pour le près de la salle. Mmh. Ça a très bien fonctionné, on l'a redonné en Bretagne, et c'est là-bas qu'Hélène m'a demandé si j'avais d'autres projets, et que je lui ai dit, oui, j'aimerais bien, éventuellement, je ne sais pas comment on va faire, prévoir un spectacle autour de Benoît Misère. Et Hélène m'a dit, ce sera moi qui serai au piano.
C'est parfait.
Et je n'étais pas contre l'idée.
Quelle aubaine.
Et donc.
Et on a commencé à travailler, du coup, mais à distance. Parce que moi, étant à Annecy, Luc à Liège, on ne pouvait pas se voir facilement, souvent. Donc Luc m'a envoyé son texte, donc, qui était ce choix d'extrait, qui était du coup, où il y avait beaucoup de. Quand même, t'as beaucoup, tout en préservant ce texte, tu l'as beaucoup, t'as beaucoup taillé dedans.
Ah oui.
Pour beaucoup, déjà visuellement, quand on lit le roman, c'est vraiment très touffu, quoi. Il y a quelque chose. Moi, je l'ai lu en entier et je voulais vraiment voir de quoi il s'agissait au tout début. C'est un livre quand même qui est assez épais. Hein. Il y a combien de 300 pages.
Facile, oui.
Facile, c'est des gros pavés de texte. Voilà, on se jette dedans à pleine brassée. Voilà, Luc a vraiment. Éclairci, dégagé, mis en évidence, voilà, il a fait des choix, il a ôté, il a élagué, voilà.
Oui.
Et j'ai commencé à lire. à chercher en fait à enquêter toutes les. Je voulais déjà partir de tout ce que Ferré amenait lui plutôt que de projeter ou de plaquer mes choix, mes goûts à moi. Je voulais voir. C'était l'occasion de faire un peu un tour d'horizon du paysage de Ferré musical. D'accord. Qui était largement évoqué dans ce livre en fait. Il y a plein de choses et les questions de. Et c'est très touchant parce que dans son enfance, il évoque cet amour un peu contrarié. Enfin, il avait un amour immense de la musique, mais qui était très très réfréné par son père. Il fallait surtout pas qu'il pratique. C'était pas pour lui, c'était pas pour son milieu quoi. Il devait pas trop s'en approcher. Donc lui, il regardait ça comme un enfant derrière une vitrine en salivant, mais il avait pas trop. Ça a dû vachement aiguiser cet amour-là. On s'est retrouvé décuplé. Et du coup, il parle beaucoup de musique. Il y a des références explicites. Des fois, c'est intéressant parce que il décrit, par exemple, à l'occasion d'une messe, parce qu'il allait à la messe tous les dimanches, et il décrit des jeunes gens qui chantent un morceau. Et il dit quand même que c'est du Palestrina, mais dans sa manière dont il décrivait le morceau, sans qu'il nomme le morceau lui-même, j'ai reconnu. C'était des tubes, hein, des choses qui sont chantées dans les messes. Il y a des passages un peu obligés, donc par déduction, comme ça, j'ai reconnu le.
Tu connais cette ambiance
ce Palestrina, Jesus est, je ne sais plus la phrase en latin, mais c'est quelque chose qui est très, très chanté. C'est un truc qui est souvent chanté dans les liturgies, dans les messes chez les catholiques. Et voilà, il y a ce fameux passage de la crèmerie où les questions de la cinquième. Donc là, évidemment, ça c'était trop. Voilà, c'était la voie était tracée pour nous.
Ça
voilà.
sous le sens là d'une certaine manière.
Il y a tous les compositeurs français. Il y a Bach, l'éternel Bach aussi qui revient souvent. Mm. Les questions de Bartok, il les mentionne à la fin dans la.
Il évoque Bartok.
Cette phrase aussi qui dit voilà, tu te rappelles à même de mémoire si Bach, Bartok.
Oui, en parlant de. Du cimetière, oui, sur la tombe. Quand je veux faire un exercice de lucidité, je vais sur une tombe, dit-il. Et il dit, si on écoutait du Bach, du Bartok, du Ravel chez vous, le mot deuil raviverait sa racine.
Ouais. Donc tu vois, plein de petits...
Des pistes
des
déjà pistes, dans le texte.
Des petits cailloux dans le texte, et voilà.
Regarde-la ta voile, elle a les seins gonflés, la marée de tantôt te l'a déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drague pas dans Paris. T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même à terre. C'est dans l'eau. Ta maman t'a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme en avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer, on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu tout près a suicidé quand la mer se ramène avec des étrangers, homme ou chien, c'est pareil, on les regarde naviguer, et dans les rues de Lorient ou de Brest, pour les sauver, y a toujours un marin qui rallume son voilier. Regarde-la, ta quille, à la mer en allée, la marée de tantôt te l'a tout enjupée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. T'as le cœur comme ces rocs, vêtu de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'accrochait deux ancres aux doigts de chair, et les lignes de ta main, ça se lit. Fond de la mer.
sais pas comment en avril 68, l'Ochu, tu t'en souviens, dans ces rues de l'emmerde, on était trois copains, au bout de mille nuits, et le jour qui se pointait, afin que rien ne se perde, quand la mer se ramène avec des étrangers. En Bretagne, il y a toujours la crêperie d'un côté et un marin qui te file une bonne crêpe en ciment, tellement il y a fourré des tonnes de sentiments. Regarde la tabarre comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros, très chic. La mer a ses anglais avec le drapeau noir, on dirait 68 qui s'en revient du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé, si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré. Pas comme en avril de mon cul, dans ce bar adossé au destin de la rue. C'est pas comme demain, au l'an de l'an 10 000, l'Ochu tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là. La mer dans les soleils, avec ou bien sans pire, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie. Et quand on se ramenait avec nos galaxies, ça faisait un silence à vous mourir d'envie. Et les soirs d'illusion avec la nuit qui va, dans Brest ou dans l'Orient, on pleure et on s'en va. L'an 10 000, L'Ochu, tu te rappelles? L'an 10 000. L'Ochu. L'an 10 000.
On va le rappeler quand même, on parle là de l'enregistrement que vous avez finalisé, mais on parle aussi d'un concert que vous avez donné à plusieurs reprises. La première fois, c'était à Annecy, je crois. À peu près. Hein,
oui, on l'a essayé à Annecy. C'était la première, c'était la toute première.
Oui. Vous l'avez donné ensuite à Liège.
On l'a redonné à Liège, à notamment au théâtre de l'Étuve, qui est un petit théâtre mythique liégeois, chez Philippe Dangis. Oui, donc c'était une belle aventure aussi de pouvoir le donner plusieurs fois de suite dans ce théâtre, dans ce merveilleux petit théâtre de Liège.
On l'a fait à Lutry aussi.
On l'a joué à Lutry en Suisse.
Café théâtre mythique. En Suisse romande.
Ouais, à l'esprit frappeur.
Du lac, à l'esprit frappeur, ouais.
Ouais. Et puis là, on a encore. On sera en septembre au premier festival des arts de la parole d'Orpejoche en Belgique.
Vous étiez, parce qu'on sera le diffusé le 4 octobre.
Nous étions le 21 septembre dernier à Orpejoche pour le premier festival des arts de la parole poétique. Et nous serons à Strasbourg en février pour
la Bibliothèque nationale universitaire, s'il vous plaît.
Très
magnifique
bien.
Bibliothèque avec un très bel auditorium.
Très belle invitation.
27 février, oui.
Voilà, alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, donc durant ce spectacle, Luc, tu lis des extraits que tu as choisis de Benoît Mézières.
Des interprètes, donc j'ai étudié.
Tu les interprètes, d'accord. Tu les connais par cœur, tu peux dire.
Voilà, j'ai étudié le texte et j'interprète. J'avais pas envie de lire, ça sépare trop du public, donc c'est vraiment une interprétation. Ici, on l'a lu pour l'enregistrement, on a fait une lecture, lecture au micro, au studio Climax de Philippe Libois à Liège, mais en scène, j'interprète.
D'accord. Et donc, Hélène, tu es avec lui pour l'accompagner d'une manière musicale, avec des moments musicaux que tu es allé puiser éventuellement selon l'inspiration dans l'œuvre de Léo, mais d'autres que tu as ajoutés toi-même, hein, de ta
Alors,
propre volonté.
Alors, tout simplement, oui, bah, il y a les chansons de Ferré, de Léo elle-même, qui sont très très présentes, on va dire à égalité, il y a
Bien
autant,
sûr.
Voilà. Mais qui sont, du coup, entendu sous une forme autre, qui ne sont pas les versions chantées.
Tout à fait.
Là, on avait le texte qui est extrêmement présent. Voilà, on ne voulait pas rajouter encore des paroles de chansons, ça aurait été trop. Donc on les entend, elles sont jouées comme des morceaux de piano, en fait. On entend comme ça La mémoire et la mer.
Spleen.
On entend Spleen, qui se joue très bien comme ça aussi, qui sont...
L'enfance.
Alors l'enfance est chantée, par contre. C'est l'unique chanson
Alors,
à la toute fin.
Tu prends quelques mesures au tout début de l'enfance.
C'est vrai, on entend la boîte à musique. Ça permet de faire la boucle à la fin. de boucler la boucle.
Bien sûr.
Mais
puisque c'est le sujet, hein, quand même. Voilà. L'enfance, c'est quand même le sujet central du roman Benoît Misère.
C'est ça. Il y a également une pièce pour piano, aussi très peu connue, que une pièce qu'on m'a fait découvrir François André, là, qui s'occupe de la revue Les Copains de la Neuil. Mmh. C'est lui qui m'a fait suggérer lors d'une première... une première version en public qu'on avait donnée en fin août, il m'avait dit « Ah, mais tu pourrais jouer l'opus X !» J'étais allée écouter, évidemment, ça a été aussi enregistré par Vanessa Wagner, une pianiste classique.
Tout à fait.
Ferré comme quoi suscite l'intérêt, voilà, bien, l'intérêt partout, temps, dans tous les milieux musicaux, on peut s'en réjouir. Donc voilà, il y a ça autant de compositions de Léo que de compositeurs de répertoire classique.
On entend bien sûr le temps du tango aussi,
quelques mesures du temps du tango, au début.
Quelques mesures de la solitude, enfin on a l'impression de la solitude qui vient de temps en temps. Les poètes de 7 ans.
Les poètes de 7 ans
petit
aussi,
peu, je crois. Et puis on a les anarchistes aussi.
Les anarchistes.
Qui sont
aussi.
Là, hein, je tiens à le dire quand même, hein, tu es sur Radio Libertà, la Fédération anarchiste. On ne peut pas passer à côté. Et puis d'autres moments musicaux que tu vas choisir au gré de ton inspiration, de ton envie.
Eh bien, je dois dire que il y a donc les chansons de Ferré, il y a le répertoire que j'ai pioché du côté de Bain de Bach, de Ravel.
Tchaïkovski.
Alors il y a du Prokofiev, Roméo et Juliette, mais ça c'est une blague. À un moment, c'est quand on a le duel entre Rennes et versus. Donc on a Ferré versus Tchaïkovski avec les anarchistes, et puis il y a la danse des chevaliers.
Voilà,
qui est un tube que. C'est un truc que les gens connaissent, et c'est parce qu'il y a une espèce d'affrontement un petit peu, un peu viril. Mmh. Là, deux jeunes ados là, qui se prennent très au sérieux, c'est assez cocasse. Et puis pour le reste, en fait, il y a aussi des sons. On s'était dit avec Luc que là, on est sur scène. On s'était dit au début, on va faire un décor très épuré avec peut-être deux chaises et on bougera. En fait, on s'est rendu compte que c'était déjà beaucoup trop compliqué, ces chaises-là. Il fallait qu'on aille beaucoup plus loin dans l'épure et qu'on tire vraiment parti le plus possible des sons.
Alors, des sons d'ambiance. Hein,
des sons d'ambiance. Voilà.
De tramway, d'horloge.
C'est ça, des choses qui donnent un petit peu des repères aussi, qui marquent des respirations, et puis qui aussi évoquent ce côté très, très, très olfactif qu'il y a, très sensoriel, qu'il y a chez Ferré. Donc ça donne un petit peu, un parfum. Mmh. On a donc le tramway, on a la mer, évidemment.
Pas des chevaux.
On a des pas de chevaux, voilà. On a aussi un leitmotiv qui revient aussi, qui est cette espèce de truc d'horloge, comme ça, de temps. Alors, on entend une horloge, on entend aussi des fois des sons qui sont répétés. C'est le temps qui passe. Quelque chose qui bat aussi. Enfin, voilà, cette espèce de poux, en fait. Il y a un poux, qui donne... C'est des choses très simples, on n'a pas inventé non plus l'eau chaude, mais ça marche, ça donne de la... C'est quelque chose d'organique, en fait, qui donne qui habille cette lecture et qui lui donne une...
Oui, c'est plus que de l'accompagnement. L'idée, c'est que ce soit vraiment un duo, texte et musique. Mais oui, de sortir de l'idée d'accompagner. Et donc, le décor sonore et le choix des musiques est très, très précis, ciselé, pour faire un duo voix-piano, un vrai duo.
Voilà, et au moment du concert, effectivement, il y a des endroits où j'improvise plus, où je laisse... Ça évolue, comme on n'a pas fait plus de 10 fois. Donc ça peut encore, on sent qu'il y a potentiellement des endroits qui peuvent, on s'est rendu compte qu'il y avait certains endroits qui étaient plus nus, où il y avait plus de texte et on avait envie du son, que le piano soit là, donc j'essaye en live.
Tu t'accordes cette petite liberté de vivre l'instant.
C'est ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où il était bien qu'il y ait un silence total, et des fois qu'il pouvait y avoir un petit fil quand même derrière, que c'était bien, que c'était... Ça donnait peut-être aussi un petit appui à l'auditeur de ne pas le laisser tout seul aussi, avec des choses qui étaient dures à certains moments. Mmh. Voilà, donc ça c'est vivant et ça peut changer d'une représentation à l'autre. Il y a une petite marge d'improvisation.
Bien sûr. Mmh. Alors vous l'avez donné une dizaine de fois, vous me dites, ce spectacle ?
Maximum.
Oui, ouais. Maximum, oui.
Oui, oui, pour tout dire, on n'a pas vraiment cherché de lieu. Donc l'idée c'était... d'avoir l'enregistrement. On est conscient aussi, Mathieu plaisantait peut-être un peu en disant « Vous n'aurez personne, ça n'intéressera personne ». On a quand même eu du monde, malgré tout, notamment à Liège, à l'Étuve. Mais c'est pas facile de proposer non plus, on est conscient que c'est pas facile de proposer un théâtre, l'adaptation d'un roman de Léo Ferré.
Ouais, tu crois,
C'est pas évident de proposer ça. Donc on a pas encore démarché beaucoup. Ici, on a enregistré, on a envie que ça existe. Il faut pouvoir trouver des lieux que ça va intéresser, quoi, qui sont d'accord de prendre ce risque. Donc ici, pour Orp, la dame est venue nous écouter à Liège, et c'était un coup de cœur, et elle a insisté pour qu'on vienne le jouer à son festival. Mais sinon, oui, on est conscient que c'est pas nécessairement facile à placer dans les théâtres, quoi.
En fait, il faut vraiment soigner la communication sur une proposition comme ça, parce que les gens voient Ferré, ils viennent, ils attendent de la chanson, quoi.
D'accord.
Ah oui, on a eu des gens à Verviers notamment, on a eu une très belle présentation à Verviers au Temps Mêlé, mais des gens sont venus, ils ont vu Léo Ferré, ils n'ont pas regardé plus loin, tu vois, ils sont venus, Léo Ferré, chouette, on va écouter des chansons.
Voilà, c'est ça.
Et qui ne s'attendaient pas à entendre du texte dit.
Oui, donc, surprise. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont été pour autant décontenancés? Est-ce qu'ils n'ont pas été surpris?
Surprise. C'était une belle surprise pour les gens qui ne s'y attendaient pas, c'était une belle surprise.
Quand même, oui.
Tant mieux. Et puis on avait tout de même une deuxième partie, quand on joue Benoît Misère, on a une deuxième partie où on interprète tout de même quelques chansons liées au texte.
Ah, très bien.
Mais on se rend compte qu'on le fait quand même pour les gens, parce que quand même c'est un tour de force pour Luc, sorti de l'1h15 de texte par cœur, de devoir rechanter à tous égards, c'est vraiment... C'est un marathon, quoi.
Mais oui, ça doit être
éreintant. On le fait pour les gens, voilà, pour qu'ils aient quand même des chansons. Mais c'est pas forcément quelque chose dont, au-delà d'un rappel de un ou deux titres, dont on rêve de faire une deuxième partie chanson concert, quoi. C'est trop énorme.
On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première. Et se fracassait la crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi, qui suis vieux comme l'hiver, au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. De ses yeux taillés en amande, ni gris, ni vert, ni gris, ni vert, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière, on vous la servait bien avant qu'on en redemande. Et ça pleuvait, et ça pleuvait, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie, et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est allé bras dessus, bras dessous, dans le quartier où il y a des vitrines, remplies de présence féminine, qu'on veut se payer quand on est saoul. Mais voilà que du fond de la rue est arrivé un limonaire, avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer tant et plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus, se sont perdus, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie.
Radio Libertaire 89.4 FM avec Luc Baba et Hélène Weissenbacher pour leur adaptation du roman de Léo Ferré, Benoît Misère, ce soir dans le Ferré Club hors série.
Et alors, il y a la volonté de passer du spectacle que vous avez donné une dizaine de fois à un enregistrement figé, arrêté, gravé quelque chose, voilà.
La première idée, c'était de pouvoir l'offrir à Marie-Christine, qui a eu le souhait de venir nous écouter à Liège.
Marie-Christine Ferré.
Marie-Christine Ferré, voilà, mais qui n'était pas en... physiquement, c'était un peu délicat pour elle de faire le voyage, donc on avait tout de même cette envie, vu que tout est né quand même de son coup de fil, où elle m'a remercié de citer des extraits, bon, de pouvoir le lui envoyer, qu'elle puisse l'entendre. C'était vraiment la motivation première. Il n'y a pas d'idée de commercialisation d'un produit, mais vraiment que ça puisse exister pour qu'elle l'entende.
Bonne idée, parce que c'est un très bel enregistrement que vous avez mené sur cette œuvre.
Oui, avec Philippe Libois, qui est très, très, très bon.
Où est-ce que vous avez enregistré à Liège?
C'est le studio Climax à Liège, oui, Philippe
D'accord.
Libois.
D'accord.
Chez qui on retournera bientôt pour des chansons.
Tu avais travaillé avec lui
pour l'album, ce n'était pas lui, non.
D'accord.
Oui, on avait envie de garder une trace. On s'était dit peut-être qu'on ne tournera pas forcément longtemps que ce projet-là, mais on voulait à tout prix garder une trace et surtout et pour pouvoir après imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec un enregistrement qui ne soit pas un disque. Donc, est-ce qu'on le mettrait en ligne comme ça?
Oui, parce que garder une trace, ça aurait pu être par exemple une captation vidéo d'un spectacle.
Oui. Après, je trouvais que ça s'écoutait bien, justement, feuilleton radio. Comme tu vois, il y avait ce travail sur les sons. On n'avait pas besoin de voir quelqu'un qui parle, tu vois, et qui joue. Ça pouvait s'écouter vraiment. On pouvait se plonger dedans. C'est un petit film pour les oreilles, quoi.
Bien sûr.
Et donc, on s'est dit, on va l'enregistrer tant que c'est encore tout chaud. Et puis après, on verra. Mais c'était pour pouvoir garder une trace, vraiment.
Vous avez rudement bien fait, parce que cet enregistrement est arrivé jusqu'à moi grâce à Luc, qui m'a envoyé un exemplaire, et j'ai écouté, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et surtout, au-delà du plaisir subjectif qui m'appartient, je pense que ce qui est surtout très intéressant, c'est que enfin une incarnation de ce Benoît Misère. Alors, c'est vocal, c'est effectivement juste pour... Enfin, ça existe sur scène, hein, je ne veux pas réduire, mais là je parle de l'enregistrement, on va proprement parler, c'est vocal. Mais ça permet quand même que soit incarné, parce que tu interprètes ce texte qu'on était un certain nombre à un jour espérer avoir une incarnation de ce Benoît Misère. Oui,
je l'interprète, et oui, et en effet c'était très important pour moi de l'étudier, de le connaître par cœur, parce que dans une lecture, tu oublies ce qui suit. Quand tu as étudié ton texte, tu sais ce qui va venir, et ce qui va venir identifie l'émotion dans laquelle tu es sur le passage qui précède, tu vois. Et donc, c'est tout à fait différent d'une lecture. D'accord. On anticipe, on sait où on va, et on peut en jouer.
Oui, jouer avec les intentions.
Oui.
Ouais, d'accord. Parce que vraiment, pour le coup, c'est vraiment un travail de comédien que tu as accompli, hein, c'est vraiment quand même un vrai travail d'interprétation avec...
Sortir cette casquette-là, oui.
Ouais. Encore une nouvelle casquette avec laquelle on te rencontre, hein, en tant qu'écrivain la première fois, ensuite en tant que chanteur, et cette fois-ci vraiment bel et bien en tant qu'interprète, parce que tu ne chantes pas à l'exception de la chanson L'Enfance, qui, comme tu le disais Hélène, vient d'une certaine manière créer une boucle dans cet enregistrement, puisqu'on entend quelques mesures que tu joues au piano au début, alors que Luc est en train de... une quarantaine de secondes, je crois, après le début de la diction, de la scansion, quel terme il faut employer, enfin, qu'importe. Et à la fin, Luc, tu viens chanter, interpréter bel et bien cette chanson L'Enfance, à la fin de cet enregistrement, pour boucler la boucle.
Qui clôture, et c'est un peu une façon de dire, bon, tout ce qui précède la chanson, c'est peut-être ce qui se passe dans le cœur de Léo, juste avant que lui-même ne la chante. Donc c'est comme un instant démultiplié.
C'est un préambule, quoi.
Alors il y a un moment que j'aime énormément, c'est effectivement le moment de la crèmerie, avec cet élan par lequel tu es porté. Là, il y a la musique de Ludwig van Beethoven que tu improvises d'une certaine manière au piano, enfin improviser le mot est certainement mal choisi, mais disons que tu t'inspires de cette symphonie numéro 5 de Ludwig von Beethoven pour nous en restituer quelque chose au piano et accompagner Luc, qui est pris à ce moment-là par une sorte de tempête, de bourrasque.
Oui. Et on a vraiment travaillé ça assez longuement pour que ça colle merveilleusement et de clôturer ce passage sur les notes phares du morceau, quoi, que ça s'accompagne vraiment, qu'on a l'impression que ça peut pas être dissocié, qu'on peut pas dissocier la parole de Léo dans ce passage-là de la musique elle-même.
Tu nous parles un peu de ce moment de la crèmerie dans le livre. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ne le connaissent pas, cet épisode particulier?
Il explique donc que un jeudi sur deux, sa maman venait le voir au pensionnat et il passait quelques heures sublimes en sa compagnie. C'était le petit moment trésor hors du temps. Et elle l'emmenait toujours dans la même crèmerie prendre un chocolat chaud. Et un jour, dans cette crèmerie, ils ont diffusé la cinquième de Beethoven et ça a été pour lui une révélation absolue. Il explique qu'il n'était plus présent à sa mère, comme d'habitude, qu'il s'est laissé là. Il dit « Je me suis laissé là, avec mon corps, avec mes habits, avec mon petit nom inscrit. » Et il était entièrement habité par la musique qui lui arrivait de ce trou électrique, comme il dit, posé sur une table. Et c'était une telle révélation qu'il a compris qu'il était différent aussi, parce qu'après, quand il est rentré, il explique qu'il rentrait après au pensionnat, et il y avait sa petite miche de pain sur la table, le pain de la solitude, mais que lui avait les yeux remplis de beauté. Et ça ne le quitte plus. Et donc ça vient à un moment où il va connaître le pire dans ce pensionnat, et il rencontre la musique de Beethoven. Et il sait, à ce moment-là, il comprend qu'il est musicien et qu'il est poète. Et c'est en même temps ce qui lui vient comme un secours, comme si la vie venait lui offrir un secours pour ce qu'il allait vivre ensuite. Et on peut comprendre à ce moment à quel point la musique et la poésie ont été pour lui quelque chose d'identitaire, et pas uniquement. On n'est pas dans le domaine de la passion ou de l'amour, on est dans l'identité. Donc c'est ce qui a fait son identité. L'identité, elle se fait dans ces moments-là de l'enfance, quand la tragédie rencontre la beauté absolue, et qu'on doit vivre avec les deux. On ne guérit pas des tragédies que l'on reconnaît à l'enfance, mais si on a reçu en cadeau la beauté, d'une façon ou d'une autre, alors on est sauvé, et on peut continuer son chemin de vie, je pense.
Tu me disais, Luc, que cet enregistrement n'a pas vocation à être commercialisé. Mais alors, qu'est-ce qui va devenir de cet enregistrement?
C'est une question que je me pose très rarement dans ma vie. Si je laisse,
ça t'empêcherait de faire les choses?
Non, moi, je fais jamais les choses en me demandant si ça peut avoir du succès ou ce que ça va devenir. C'est non, que ce qui est, voilà.
Alors, au-delà du succès, qu'est-ce qui est destiné, finalement, au-delà de la transmission jusqu'à Marie-Christine, qui est une très belle chose, une très belle intention?
Alors, ce qui me plairait, c'est que les gens recommencent à s'intéresser à ce roman, qu'on le ressorte en poche. Pour moi, ce serait tellement bien que ce roman existe en format poche et que les gens puissent continuer de le lire. Ça, je pense, ce serait une bonne nouvelle. C'est un roman nécessaire. On est plus que dans le domaine du patrimoine. Là, c'est un petit chef-d'œuvre qui a sa place dans le monde de la littérature et dans ce que l'on peut continuer de lire dans les décennies qui viennent. C'est un témoignage exceptionnel d'une époque, de quand il évoque les chevaux dans la rue. Enfin, donc on a un témoignage d'époque et l'enfance d'un des plus, peut-être le plus grand, un des plus grands poètes du siècle dernier. Donc ça doit continuer d'exister, c'est une certitude. Alors si on peut apporter un peu, avec notre enregistrement et nos scènes, l'idée que, tiens, ça continue de vivre, c'est formidable. Maintenant, comment, qu'en faire? J'ai tendance à faire confiance, à me dire que si des portes peuvent s'ouvrir pour ce texte, quelque chose doit exister. Quelque chose existera. Ce serait peut-être bien, d'une façon ou d'une autre, que Mathieu Ferret s'en empare aussi et décide peut-être d'en faire quelque chose, de voir de son côté comment ça peut continuer de vivre, puisqu'il a aussi, il porte aussi cette responsabilité-là de continuer à faire vivre l'œuvre de son papa. Donc voilà, mais ça ne lui est pas encore parvenu. On va faire en sorte que l'enregistrement. Je lui ai envoyé. Je ne suis pas sûr qu'il ait ouvert le fichier. Ouais. Mais donc on va faire en sorte qu'en tout cas que ça arrive à leurs oreilles.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. mais la société, faut pas s'en mêler. Je suis un type à part, une graine d'ananas. J'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier tressé de chanvre. Il était un foutu foulard à gueule d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'ananas. C'est fini, je vous le dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société, de la belle société qui se met à se mêler, de mettre au rancard ma graine d'ananas. Autant se double, l'oiseau fait son nid. Messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamine. Mais auparavant, j'aurai comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
J'arrive de bien loin et je vous prie de m'excuser pour le mal que je vous donne. Je viens remplir mon temps dans le temps des hommes et je ne sais ni de quoi, ni pourquoi, ni comment je suis fait. Je suis né sous le signe de la Vierge. Et pourquoi pas le Capricorne ou le Sagittaire ou les Gémeaux? Quel dieu aveugle avait donc guidé la tête chercheuse de mon père quand il ne me cherchait pas tant que ça, au fond, on ne m'a pas désiré. Je suis né, quand même, entre un châle que ma mère rafistolait et une sage femme qui sua sang et eau, paraît-il, pour m'amener à toucher terre. Je m'accrochais comme une barrique au fond du trou où ni voyelle ni consonne ne peuvent formuler la comédie phonétique de l'autorité. Allons, ouste! Descends, viens ici, marche et courbe-toi, arrière, droite, gauche, et là-bas, ramène-toi, grouille, tu vas être en retard. Ah ben, c'est bien fait pour toi. Bon, allez, à table, c'est fini. Dépêche-toi, allume ta lampe, fais tes devoirs, gare à ton examen, tu as écrit. Dis bonjour, dors, mange, meurs, merde! Je n'eus pas à enlever mon chapeau. Je suis un gamète mâle qui a pris du poids avec des yeux pour surprendre, une bouche à mordre, des bras pour serrer et une voix pour revendiquer, toujours revendiquer. Qu'est-ce qu'on risque ? Une misère, une vraie misère. Et la solitude aussi. Je suis seul. J'ai peu de souvenirs précis de mes premières années. À part l'horreur tragique du lait, j'ai tout admis, j'ai tout aimé. Mais je voudrais parler du lait, car ma haine à son égard est sans limite. On aime parler de ce que l'on est, ce que l'on est se connaît bien, et je connais bien le lait. Bon, haïr un homme, une idée, une politique, cela fait du bien à mon esprit, mais haïr un aliment primaire comme le lait, cela fait du bien à mon sang. La couleur, ce blanc blême qui ressemble au plâtre que l'on touille. L'odeur âcre qui rappelle l'herbe dévotement ruminée, assimilée, liquéfiée avec ses bulles dans le saurat. Quant au lait de femme dont j'ai dû goûter, je pense que c'est une faute qu'il y ait de ça dans ça. Des seins bien gonflés d'amour m'irisent le sentiment, mais qu'il y perde une seule goutte de ce liquide à leur rose brune, et me voilà tapis dans la nausée. J'ai dû être un ruminant, on n'aime pas ce que l'on produit. Quant à ses dérivés, et celui que l'on appréhende le plus souvent, le fromage, eh bien je professe à son égard une indifférence mélancolique, sans plus. Mais on l'accompagne de vin, on l'humanise. Au pis de ma mère, je préfère le grain de la grappe. Le nez a toujours été pour moi un guide sûr, un radar infaillible. Je sens mieux qu'un chien, car je transcende mon odorat. On n'a que les odeurs qui s'inventent à nous par hasard. Naître près de la mer, cela veut dire se sentir elle. On pense la mer parce qu'elle est bleue, grise, verte ou incolore, et qu'elle a des odeurs bleues, grises, vertes ou incolores. On la parle aussi. Quand elle est en colère, on crie comme elle. Là-bas, j'avais tout. Je pouvais avoir 4 ou 5 ans. Nous étions au bord de la mer, sur les galets, près de la bleue. Elle était bleue ce jour-là. Ma mère bavardait avec je ne sais qui, et moi j'allais de découverte en découverte, et je me souviens de lui avoir rapporté comme un chien rapporte sa trouvaille, ce que je pensais être un bout de chiffon. Et le lui tendant, après en avoir reniflé toute l'âme, je claironnais « Maman ! Maman ! Ça sent la mer, ce chiffon !» Ma mère me pria de rapporter l'objet à la place précise où je l'avais trouvé. Je revins pas trop près sur les galets, en rien troublé et silencieux. La baigneuse rentra. Elle se rhabilla en commençant par le chiffon et disparut là-bas, tout au bout des galets. le soir. Je mis longtemps à m'endormir. Sortait de moi le carnet viscéral où gisent mes odeurs perdues et mon nez en cavale. Je ne serais pas là à me défigurer de mes souvenirs. Chez Madame Tirette, ça sentait toujours un peu le chou. Madame Tirette, notre voisine du dessus qui était munie d'un balcon plongeant de 4 étages dans la rue, une sorte d'impasse en fer à cheval avec un café, un fou à sa fenêtre et un cheval attelé à une charrette toute simple et qui semblait attendre le client qui l'attendait longtemps. Et puis le laitier, le soir apportant la traite tardive. Tu sais, Benoît, j'ai mis le store parce qu'il fait très chaud. Oh, quelle chance, Madame Tirette, quelle chance. Oh, j'étais heureux, le store, l'été, les bruits ensoleillés de la rue, avec l'odeur de la ratatouille qui mijotait, les ritournelles des maçons ou des peintres, les pas des chevaux aussi, le store. Oh, tout cela me tenait frais au sentiment. Chez Madame Tirette, j'avais mes chevaux dans une écurie de chaises. Les chaises me tenaient lieu de chevaux. Je les caressais, je les humais, et parfois, le soir, à la station, je leur mettais une couverture de laine et j'attendais longuement le client. Parfois, mes chaises fatiguées, je laissais passer une course ou deux. Il fallait bien qu'elles se reposent. Et puis, c'était l'heure de l'avoine. Je n'avais Dieu que pour les chevaux, mais ils étaient coupés, les chevaux de tout, de leur pampa, de leur chair. Et moi, j'avais envie de me pendre à leur muserolle et de leur dire « C'est moi, Benoît, je ne suis pas un cheval, mais si vous saviez comme je vous aime, oh oui, je vous aime. Mais venez à la maison, vous montrez l'escalier, oh, je vous aiderai, et là-haut, vous ferez la bise à Madame Tirette. » Ah, je lui ai promis, je lui ai dit, un jour vous verrez, Madame Cheval, il y aura ici des chevaux, des vrais, des qui sentent. Alors elle me prenait dans ses bras et elle me disait, « Mais oui, mon petit, des chevaux, des vrais !» Et moi, je sautais sur mes chaises et je leur sentais la paille. Ce que j'ai pu avoir envie de me pendre au cou des chevaux dans la rue. Aujourd'hui encore, je n'ose pas. C'est bête, un homme. Ça ne va jamais au bout de ses vœux les plus secrets. Plus tard, quand je descendrai de chez moi pour me rendre dans ce bagne, italien. Je m'identifierai toujours à l'un de ces chevaux faisant le pied de grue dans la descente de la gare. Je serai lui, sanglé, avec des œillères et le réservoir d'avoine pendu à mon cou comme une dentelle pitoyable. Cheval, prends ma valise et ma mère par la main et va apprendre l'algèbre. Moi, je tirerai le fiacre. Je ne penserai plus, sinon à l'écurie le soir dans le foin bien-aimé que je mâcherai doucement en me tournant un peu. Je garde de ces années un air de cheval et des yeux démesurés. Quant à Monsieur Tirette, je ne l'ai jamais aimé. Un jour, sur ses genoux, je lui ai tiré les moustaches et il me gifla. Quand il est mort, je lui ai tiré les moustaches. Un mort, ça ne gifle personne. J'apprenais à mesurer le temps. À une époque où les autres enfants apprennent à se moucher tout seuls, l'oncle Percani était horloger. J'étais à sa merci comme un petit rouage et il m'aimait comme une montre. Et il parlait de mon cœur comme un poète. « Allez, mange, petit, remonte le ressort !» J'appris à mesurer le temps en musique. À l'aube, un coucou orangé signalait l'inquiétude du ciel. C'est drôle, on dirait que les choses pensent, chantent, dansent. Les chevaux battant la chaussée, sabots de fer, tam-tam, inscrivant sur le bitume la chorégraphie de leur désespoir. Les trains dans la nuit, notant à chaque traverse le rythme du voyage. Les chants d'oiseaux, aux sonorités de dimensions inconnues. La pluie frappant aux vitres et jouant une partition. Violon pointé, hautbois lié, harpe jouant près de la table. Percussions toutes écrites, tout est rythme. Un jour, me dit l'oncle, à 300 000 km à la seconde, nous remonterons le temps. On verra les fleurs quitter leur tunique de fossiles et reprendre leur stature, puis rentrer dans la terre, réinventer leurs graines et renaître encore et à l'envers. La Joconde rentrera dans la main de Vinci, Chartres tombera en quenouille. On dira « J'ai moins 20 ans ». On ne dira plus « Il est mort », mais « Il est né ». Il est retourné dans son père et dans sa mère jusqu'aux mollusques. Les souvenirs seront demain, la naissance sera la mort. Il deviendra très difficile d'écrire au passé. Le conditionnel aura mauvaise mine. Oh, et les fautes d'orthographe, elles ne seront plus. Elles s'effaceront, la laideur périra d'avoir été comme la beauté. Et l'électricité, elle redeviendra pâle comme bougie, comme lampe à huile, comme soleil. Et la nuit ? La nuit, elle remontera, comme les aliments, comme quand tu as trop mangé de chocolat. On rendra la nuit ? Oui ! L'univers sera une formidable remontée viscérale. Un client me disait l'autre jour, « Nous ne sommes pas au monde. La vérité est ailleurs. » Où ça ? Dans un monde qui ne se descend ni ne se remonte. Dans une idée du monde, le monde du zéro et de l'infini. L'infini ? Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, l'infini, c'est la misère des mathématiques. Et le zéro ? C'est ton père, quand il croit que tu lui ressembles. Lorsqu'il mourut, on arrêta d'un coup toutes les pendules. Seul résonnait dans ma tête le tic-tac de cette horloge humaine que j'avais tant aimée. Quant à mon père, il traînait son nom avec une infinie précaution. Misère, disait-il, misère c'est beaucoup plus lourd à porter que mon cul. Mon cul au moins ça fait rire, misère non. Mais comment veux-tu que je demande une augmentation avec un nom pareil ? Mais dès qu'on me voit chez les patrons, on m'ignore, on m'étouffe, on m'efface. Mon nom porte malheur. Comme les hiboux, j'ai des hiboux plein mon identité, mais je vais faire le nécessaire. Et il avait fini par se fabriquer 6 cubes marqués des lettres de son nom. C'était son jeu de patience. Il écumait toutes les possibilités. Simi, Céli, Sirem. Oh, Sirem. Oui, c'était assez joli. Hein, il y reviendrait souvent. Rémi, proposa un jour ma mère. Oh non. Non, ça aurait mieux, non. Non, ça fait un petit peu trop italien. Ça fait même un petit peu juif. Ah non. Non, mon père n'était pas raciste. Mais il avait l'habitude de dire « chacun chez soi ». Le racisme chez les pauvres gens, ne conduisant jamais au lynchage, mais à une forme de ponce-pilatisme bien français. On a les mains propres dans notre pays. Un jour, les lettres tombant pêle-mêle formèrent le mot tabou, le mot destin, le mot qu'il ne fallait surtout pas trouver. Remise. Mon père l'avait soigneusement évité, contourné comme on contourne un endroit réputé dangereux, comme ça, bêtement et sans approfondir parce que la pancarte l'ordonne. Défense d'entrée. Mais quand le destin vous parle ainsi, et vous met le nez dans votre remise alors que vous pratiquez l'anagramme pour en sortir. Voilà de quoi interloquer. Ce mot « remise », mon père en connaissait tout le sens. Je m'appellerai « misère » pour l'éternité.
Où j'ai passé les 3/4 de mon enfance, ne se trouve pas en Chine, mais à une 20aine de bornes
de chez maman. J'étais aussi loin de chez maman que si j'eusse été en Chine. Voilà pourquoi je n'aime ni les voyages, ni le riz, ni les baguettes, à part celle du tambour. Dans mon collège qui se trouvait à 20 bornes de chez maman, j'étais malheureux. Le malheur moral des petits-enfants n'intéresse les parents que de fort loin. Ce soir d'automne là, s'épanouissait dans le ciel, en petites larmes roses plissant les nuages et leur faisant une voilette, comme un filet de pêcheurs qui auraient ramené de plus loin que le large des miettes d'étoiles rouges. Ce soir d'automne là, j'ai commencé mon désespoir. Les pires choses prennent toujours leur commencement par les yeux. On regarde son malheur avant de le prendre. Le désespoir à regarder est d'une beauté farouche. Il s'y mêle des couleurs et c'est toujours dans des ciels crépusculaires qu'il gît, qu'il se terre. Les ciels de mon enfance ont été des ciels désespérés. Et je les aime toujours, ces ciels horribles. Pour arriver à mon collège, il fallait passer une douane. J'avais 9 ans, je venais de faire ma première communion, je n'étais jamais sorti de mon pays, et j'avais 6 bananes dans ma valise. Le douanier me fouilla, il voulut prendre les 6 bananes, mais moi, je n'ai pas voulu. C'est la première grande décision de ma vie que j'allais prendre. J'ai mangé les 6 bananes à la suite, sous l'œil du douanier. Tenez, les pots, vous pouvez les garder. J'étais un homme, les larmes dans l'estomac et mon orgueil en tas de pots sur le comptoir de cet imbécile dont on me dit plus tard qu'il faisait partie de ce que l'on appelle la société. Pour arriver à mon collège, il fallait, après la douane, prendre un tramway. Adorable créature de fer et de bruit. Salut, vieux tramway vert de ma désespérance. Salut, sale convoyeur d'un petit enfant poète qui vous inventait du charme et à qui vous passiez les menottes. Salut. Vous faites un tel bruit dans ma mémoire que mon chien vient de tendre l'oreille. Salut, dormez dur dans vos linceuls de ferraille et merde à vos éclaboussures vertes sur mon petit costume marin ce soir d'automne où vous avez cessé de rouler pour moi. Pour arriver à mon collège, il fallait, après la douane et le tramway, franchir une grille où séjournait un concierge qui sentait mauvais de la bouche, mais qui vendait des oranges et qui portait des pantalons. Ah, mais les autres portaient des robes. Robe noire de mon deuil de 8 années, avec par-dessous des jupons d'homme, un sexe d'homme et une vraie maladie de la solitude. Des poches gigantesques trouaient la vertu de ces misérables et ils y farfouillaient, j'y pense aujourd'hui, tout un marécage de désirs humides. J'allais les connaître, ces pisseurs de boue quand même, ces invertébrés de l'humanité. J'allais me mettre à leur merci pendant des milliers et des milliers de secondes. J'étais coincé dans ça et j'allais sentir ça pendant 8 ans. Quelle blanchisseuse voudra de mon âme au sortir de ces cabinets? L'âme humaine, quand ça pue, c'est pire que tout, car on ne la sent pas, ça travaille par en dessous comme les microbes. Votre nom? Benoît. Benoît comment? Oui, il me disait vous, l'homme à la robe. Benoît Misère. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est mon nom, monsieur Père. Appelez-moi cher Père. Moi, je pensais à ma sœur. Quelle gueule quand je lui raconterai mes nouveaux parents. Père, mon très cher père. Fumier, mon cher fumier. Salope, très chère salope. Les grands éducateurs devraient être munis de comptes. Gégère pour détecter les vacheries. Mon compteur à moi, il aurait éclaté. Il aurait fallu changer de compteur à chaque fois. J'avais dans les yeux des pistolets d'insultes, des carabines à répéter l'insulte, des canons à bombarder d'insultes vos yeux froids comme le verre. Et mes yeux à moi, hein? Mes yeux à moi, ils étaient déjà morts. À votre abîme, je ne regarde pas les trous, mon très cher père, je m'y rentre, mon très cher monseigneur de mon calvaire, de la connerie monumentale de mon père, de m'avoir mis là pendant 8 ans, pendant mon joli temps précieux des découvertes. Je n'ai jamais rien découvert, caché, abruti, exsangue que j'étais derrière vos chairs molles. Triste, et sous vos baguettes que je prenais à genoux, les rideaux baissés, les bras comme un albatros que l'on chahute. Je vous hais, homme noir de mes découvertes. Benoît Misère ! Numéro 113. Je n'ai pas compris tout de suite. Je n'ai rien dit parce que j'avais peur. Mais j'ai compris peu après que l'on venait de me marquer sur ma petite laine comme on marque un petit mouton. J'entrais dans l'étable de l'enseignement secondaire perpétré dans une école dite libre avec des bergers noirs qui allaient me tondre pendant 8 ans quelques pelotes de désolation. Ce numéro 113, on allait en marquer tout ce qui était moi. Mes livres, mes cahiers, mes habits, même le petit costume marin que je ne portais que le dimanche, ma trousse de toilette qui sentirait bientôt le moisi avec les trucs du matin qu'on n'avait pas le temps d'essuyer. Je n'étais plus Benoît, j'étais 113. Pour tout, pour les appels, les punitions et le cahier où le surveillant notait quand on lui demandait un lacet. Oui, toujours un à la fois, jamais une paire. Comme si j'usais plus d'un lacet que de l'autre. Comme un cheval qui pèserait plus sur une jambe et qu'on ne ferrerait qu'à moitié. Ah, mais c'est peut-être pour ça que j'aimais tant les chevaux. J'en étais un, moi aussi, à ma façon. Un frère de cheval, mon très cher père. Numéro 113,
vous avez parlé ce matin sur la passerelle, vous aurez 20 points.
Oh, ben ça c'était pratique.
113, vous aurez 20 points. 20, vous aurez 113 coups de pied dans le cul, et vous me copierez 113 fois, je ne dois plus parler à mon petit camarade quand je me trouve sur les rangs.
Sur les rangs, à la passerelle, en sortant du réfectoire, en montant au dortoir.
113, vous me copierez 20 fois la page 1187 du Petit Larousse. Oui, celle où il n'y a pas d'image, celle où il n'y a pas la moindre lettrine mordant sur le texte.
Celle où il n'y a pas le moindre souffle. On devrait penser à protéger le droit moral des enfants, comme on a pensé à protéger le droit moral de l'artiste créateur. Les enfants aussi sont des créateurs. Ils font l'insouciance. Et c'est primordial, l'insouciance, non? Oh, j'ai beaucoup de respect pour monsieur le petit Larousse, mais s'il avait eu un peu de tendresse et de complicité pour les petits, il aurait supprimé le verbe copier de la langue française.
Vous me chanterez 113 fois le verbe copier, mon très cher flic, de la page 1187 du Petit Larousse, sans une image, sans une lettrine, sans le moindre souffle, avec beaucoup de larmes.
Pour arriver à mon collège, enfin, il fallait sauter une heure. Passé la douane, j'avais une heure de plus. Le temps mesuré par les hommes devrait se mettre au pas du cœur et de la fantaisie. La semaine des hommes ne m'a jamais réussi. Je me sentais déjà littéraire. Et malheureux.
Je m'appelle Reine, et toi? Misère, Benoît Misère, et mon père s'appelle Pierre, et ma mère Sophie, et ma sœur Jeanne. Oui, j'avais l'impression de lui réciter le bottin. D'ailleurs, c'était mon seul bottin. Court, mais à jour.
Reine, vous avez parlé avant le Benedicamus, vous aurez 20 points de moins.
Oh, ah ben et moi? On ne m'avait pas vu? Mais moi aussi j'avais parlé avant le Benedicamus. J'en avais dit plus que Rennes, j'avais dit mon nom, celui de ma sœur, celui de mon père, celui de ma mère. Ah, mais j'avais envie de crier, « Ouais, mon père, moi aussi j'ai parlé avant le Benedicamus et j'en ai dit plus long que Rennes. » Mais je n'ai rien dit. Je me suis tue.
L'instinct de conservation qui fait les hommes vraiment seuls au monde. En cette même seconde, j'apprenais ce que cela signifie.
être peinard. Tais-toi, mon petit. Tais-toi. Chaque fois que Reine m'adressait la parole, oui, on me l'avait accolé partout, à la promenade, à la messe, au dortoir. Chaque fois que Reine m'entretenait, « Ouais, file-moi ta part, de ma rue. Eh, ce soir, on a compo d'histoire. Eh, au foot, t'es un minable. Et demain, on a promenade. » Je m'inventais mille répliques qui me lavaient du silence des cons. Et Reine devenait alors un parleur d'étoiles. Misère ! Sacré cochon de misère ! Plus tard, nous trancherons sur la vie, nous nous mettrons à l'écart dans les rues comme des bandits de lune avec des croissants idem plein les yeux. Et nous cracherons des poésies nouvelles et révolutionnaires à la gueule de tous nos très chers pères. Oui, oui, reine, mon cher roi des gueux, plus roi que reine, puisque couillu plus reine que Néfertiti, aîné de je ne sais quoi, de mes parcelles d'oiseaux tristes, cachés trop profonds sous ma peau, pour que je les délivre de mon petit mal quotidien. Un jour nous porterons partout le message du petit enfant assis et enchaîné. Ouais! Et moi, je partirai tout seul, avec rien autour, sans me retourner jamais. Qu'est-ce qu'il pouvait me faire rire, Reine, quand je me parlais tout seul? La sonnette de fin de soupe venait de carillonner. Silence total, sauf le tohu-bohu des vaisselles. Il fallait grimper pour dormir. On se couchait à 8h20 et 5 minutes après, 40 tas de viande se mouraient comme il faut qu'on se meure quand plie la fin du jour. Et j'étais à elle, la nuit, aucun obstacle entre nous, aucune grille. La nuit et moi, nous faisions l'amour tous les soirs, et pendant 8 ans, un point c'est tout. Une porte bougeait. Un père se glissait dans l'entrebâillure qu'il retenait le plus possible, comme s'il eût craint que nous effrange la bise âcre des lavabos. Il marchait sur les carreaux comme Moïse. Vous ne dormez pas encore, mon petit ? Et il me pelotait le peu de gras que j'avais à la joue. C'était son ventre à lui. Un ventre imberbe, comme celui des très jeunes pucelles. Sa main, farcie de sexe à fleur de peau, bandait sur ma petite figure et devenait moite peu à peu. Ça leur sortait par tous les pores, ma parole, leur salveux de chasteté. J'avais envie de lui en mordre un joli morceau, mais quel plaisir aurais-je alors perpétré dans sa chair malade? Je ne dormais pas encore, mais je restais inerte. Mieux qu'un gisant. Il avait dès lors l'impression de
touché une peau molle, morte,